Cet engagement que nous venons de proclamer, disant que nous te resterons fidèles jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. C'est facile de le dire, mais c'est autre chose que de l'appliquer. Mais en le disant, nous ne comptons pas sur notre capacité à nous d'être fidèles, mais nous comptons sur l'aide du précieux Saint-Esprit que tu as promis, afin qu'il nous conduise, qu'il nous aide à respecter les engagements que nous avons pris. Nous te demandons également de bien vouloir nous pardonner nos péchés, de bien vouloir être miséricordieux envers nous, que ta grâce surabonde là où nos péchés ont abondé, que tu nous donnes la force si nous sommes fatigués, les genoux qui chancellent, que tu les redresses, les mains qui se lassent, que tu les relèves. Nous sommes là ce soir pour encore nous encourager à marcher dans la bonne direction, tenant chacun notre lampe qui éclaire le sentier dans lequel nous marchons. Bénis tes enfants ce soir, accorde à chacun selon ce qui te demande surtout, accorde à chacun de pouvoir mieux te connaître, de mieux savoir en qui ils ont cru, d'augmenter leur confiance en toi, et que cela leur soit imputé à justice. Tous ceux qui sont absents, que tu les bénisses, que tu les gardes dans leurs occupations. Que ceux qui sont ici puissent tirer bénéfice de ce rassemblement encore. Ils ont chanté, ils t'ont loué, selon que tu es au milieu de ceux qui te louent, car tu es le Dieu des vivants. Si nous voulons ressentir cette présence dans nos cœurs, que tu nous parles, Seigneur, nous en avons besoin. Si nous avons des questions, que tu apportes les réponses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Avec les salutations du frère Flavien Nzuki. Depuis le Congo, hein. Il n'est pas là. Je vois que les voyageurs sont rentrés. On finit toujours par rentrer, hein, frère Benoît. Ça a été? Fabrice, ça a été? On fait moins le malin maintenant. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Bon, je vais épargner d'autres. Nous allons nous lever. Et nous ouvrirons nos Bibles dans l'épître de Jacques. Au chapitre 1er. Jacques, c'est juste après Hébreux. Épître de Saint Jacques, de Jacques, chapitre 1er. Verset 5 à 8. 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. la sagesse, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas, celui qui doute, il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, surtout pas la sagesse. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Inconstant dans toutes ses voies, c'est-à-dire, il manque de constance. Tantôt il a du zèle, tantôt il n'en a pas. Tantôt il marche, tantôt il s'arrête. Il recule, il avance. Il va à gauche, il va à droite. Il ne sait pas très bien où il va. On intitulera cela, Fabrice, un homme irrésolu. Un homme dont les promesses ne sont pas pour lui. Tout simplement parce qu'il doute. Et il est sans cesse agité par le vent. Le vent sont les combats, les épreuves par lesquelles vous passez. Il a chanté « Quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. » Mais justement, quand l'épreuve est arrivée, il s'agite. Pendant les cantiques, il a montré qu'il était confiant envers Dieu. Mais au milieu de la fournaise, c'est une autre personne. Quand l'épreuve arrive, cet homme ne change pas. Dieu travaille avec des gens résolus, pas avec des gens irrésolus. Quelqu'un qui sait en qui il a cru. Cet homme agité par le vent, il ne reste pas en place. Le frère dit, aujourd'hui, il est chrétien. Demain, il ne sait pas où il en est. Criant Amen. Et puis demain, il ne sait pas très bien s'il est dans le bon ou s'il n'est pas dans le bon. Il ne faut pas venir ici en tâtonnant. Il faut être certain en qui vous croyez. Il faut être certain que la parole qui est là, qui est apportée, que vous êtes en droit, comme les frères de Bérée, de vérifier si c'est réellement la parole de Dieu ou pas. Placez votre confiance en Dieu. Ne la placez pas dans un homme. Quel qu'il soit l'homme. Vous savez, l'homme, dans sa nature, il est inconstant. Parfois volontairement, parfois involontairement. Alors, si vous placez votre confiance en un homme, aujourd'hui, il vous dira blanc. Demain, il risque de vous dire noir ou gris, sans le savoir, sans le vouloir non plus. Quelle que soit la tâche de l'homme en question, pasteur, docteur, prophète, évangéliste, mais soyez certains de ce que la parole de Dieu dit. Dites, frère François, prophète aussi. Il y en a beaucoup qui tanguent. Tantôt, l'esprit est dans l'âme, tantôt l'âme est dans l'esprit. Effectivement, le frère dit tantôt, dans l'âme, tantôt c'est l'esprit qui est dans l'âme, tantôt c'est l'âme qui est dans l'esprit. On finit par tanguer. La tribulation arrive. La grande tribulation. Vous lirez dans une brochure une semaine, vous lirez dans une autre une demi-semaine. Ce n'est pas Dieu qui se trompe. C'est l'homme qui se trompe. C'est pourquoi il faut regarder ce que la parole de Dieu dit. Lui-même dit, s'il lui dit une chose, et que la Bible dit autre chose, c'est la Bible qui a raison. Il faut toujours s'en tenir à ça. Et non pas s'agiter. Finalement, vous lirez dans une brochure que tel mystère, eh bien, il est révélé. Vous lirez dans une autre que ce n'est pas révélé. Et ça vous perturbe. Ça vous agite. Vous allez de maison en maison. Chez des frères que vous pensez être plus mûrs que vous, frère, est-ce que c'est vraiment révélé? Ce frère-là vous dit, en fait, c'est pas révélé, il vous sort des brochures, il vous les montre. Vous allez chez un autre frère B, lui vous dit, mais non, le frère-là t'a raconté des histoires. Il vous sort aussi des brochures. C'est révélé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Dieu a toujours travaillé avec des gens résolus. Si vous avez cru en votre Dieu, toutes ces variations ne peuvent pas vous perturber. Vous êtes bien assis là où vous êtes. Lorsque ma langue fourche, vous êtes certain que ma langue a fourché. Il faut être fils, fille de Dieu pour ça. Vous êtes équipé pour ça. Aujourd'hui, vous allez chanter Alléluia, c'est révélé. Demain, vous allez chanter Alléluia, c'est pas révélé. Finalement, qu'est-ce que vous chantez? Hein? Vous vous réjouissez, vous vous chantez, vous louez Dieu. Et puis demain, vous vous grattez la tête. Est-ce que suis-je vraiment dans le bon? Il y a deux cas, oh, il y en a beaucoup, où Dieu demande au peuple de rester bien. On va relever deux cas. Où soit des gens disent qu'ils ne broncheront pas. On va regarder le cas de Othan d'Élie. Prenons un peu Othan d'Élie. Élie le Tishbite. 1 roi 17. 18, pardon. 1 roi 18. Ils ont eu la parole de Dieu. Ils ont eu la parole de l'Éternel. Dieu leur a parlé. Dieu a fait de grandes choses. Et puis, Akab est venu avec les dieux de sa femme, avec les Baals. Israël, qui avait vécu de grandes expériences, Israël s'est retrouvé à douter. Dieu leur envoie Élie, et Élie vient. 1 roi 18, il va rassembler le peuple. Verset 20. D'abord, on va lire au verset 17, la petite discussion qu'il a avec Akab, enfin la fin. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Israël est troublé. Israël ne devrait pas être troublé. Israël a vu la colonne de feu. Israël a vu la colonne de nuée. Israël a mangé la manne. Israël ne devrait pas être troublé. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi avec tes dieux. C'est toi au contraire. N'est-ce pas ? Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals, donc vous avez trouvé les commandements de l'Éternel désuets, un peu du Moyen Âge, n'est-ce pas ? Vous avez été après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël qui est troublé auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Dites amen à ça. Jusqu'à quand ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Bien-aimé, si Jésus-Christ est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ouais. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Certainement, Israël a regardé au nombre. David était un homme résolu. David dit, si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne bronche pas. Ça, c'est un bien-aimé de l'Éternel. Dans 1 Samuel, je ne sais pas si je vais trouver ce passage. Allons un peu vers 1 Samuel 18. On va vous le trouver. Mais allons d'abord dans Josué. Pour chercher le train. Josué 24. Ne pas suivre le nombre. Suivez la révélation que Dieu vous a faite. La révélation de qui il est. Ainsi, vous savez qui il est. Vous savez que la connaissance de Dieu vous fait croître spirituellement. Le fait de bien le connaître, spirituellement, vous croissez. Vous n'êtes pas un enfant ou quelqu'un d'instable, n'est-ce pas, agité par tout vent de doctrine. Dans Josué 24, verset 14, Josué dit, il exhorte le peuple d'Israël, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous, Israël, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi, je ne vous suis pas. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais en ce qui concerne moi et ma maison, quoi qu'il arrive, nous servirons l'Éternel. Dieu aime travailler avec des gens comme ça. Des gens résolus. Ce que je voulais lire, c'est dans 1 Samuel 15, pardon. Au verset 1er, Samuel parle à Saül. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » C'est Exode 17, ça. « Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. » Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ça va? On va lui donner des ordres. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous. Sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Skour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, première bêtise, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Ils devaient tous les exterminer. N'est-ce pas? Et il ne va pas faire ça. Et il va garder aussi les bœufs, alors qu'on lui a dit de dévouer par interdit. Il va les garder, il dit, c'est pour offrir à Dieu les sacrifices. Mais maintenant, Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, Samuel va venir, il va l'enguirlander, il va lui dire, verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Observez la parole exactement comme Dieu vous demande de faire. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'il va le oindre roi, je crois que c'est dans 1 Samuel 8, dans 1 Samuel 10, il va le oindre. C'est dans 1 Samuel 10, il va le oindre. Et il va lui montrer des signes qui vont se réaliser. Les signes vont se réaliser et il va constater qu'il est réellement conduit par Dieu, le Dieu véritable. Lisez dans 1 Samuel 10, vous pouvez lire toutes ces choses. Et Saül, tout ce qu'on va lui demander, Samuel va lui dire, écoute, attends, je vais te rejoindre plus tard et je viendrai, j'offrirai le sacrifice. J'offrirai un sacrifice à l'Éternel. Et Samuel lui avait donné un délai de 3 jours. Et quand les jours sont passés, Samuel n'arrivait toujours pas. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a vu que les gens partaient. Les gens s'en allaient, le laissaient tomber. Quand il a vu les gens partir, il a désobéi, il a fini par offrir le sacrifice. Tout ça, c'est l'influence du fait qu'un grand nombre a agi d'une certaine manière et il a cru bon devoir offrir le sacrifice. Et Dieu va lui poser la question par Samuel, « Qu'est-ce que tu as fait ou qu'as-tu fait, Saül ?» Tout cela pour dire que n'ayez pas les regards fixés sur les frères ou sur les sœurs. Ayez les regards fixés sur Dieu lui-même. Tournez les regards vers lui. Dieu n'aime pas, n'est-ce pas, quelqu'un qui prend une décision de le suivre suite à l'influence de quelqu'un d'autre. Dieu veut que vous le suiviez selon ce que il a fait avec vous, selon la manière dont il s'est révélé à vous. Il se proclame lui-même comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il a eu une expérience avec Abraham, il a eu une expérience avec Isaac, il a eu une expérience avec Jacob. C'est le même Dieu ce soir qui veut avoir la même expérience avec vous. Certaines choses peuvent paraître passées de manière bizarre, mais néanmoins, Dieu agit parfois de manière bizarre. Mais quand vous êtes certain que c'est Dieu, restez-en là, ne bougez pas. Il était Dieu, un homme irrésolu, c'est un homme qui a oublié que Dieu est le Dieu d'Abraham, qu'il est Jéhovah Jiré. Une famine ne peut pas vous déplacer, à moins que Dieu lui-même ne vous demande de vous déplacer. Vous devez être certain que Dieu est capable de vous nourrir. Il nourrit les petits oiseaux, il vous nourrira aussi. Cette femme à Sarepta, cette veuve, n'a pas bougé d'un iota. Elle est restée là où elle était. Elle est bien restée là. Et Dieu lui a envoyé Élie là où elle était. Ça va? Elle savait très bien en qui elle avait cru. Maintenant, si Dieu veut que je meure, après avoir utilisé la farine qui est restée, ben, je mourrai. Mais si Dieu veut que je subsiste, je subsisterai. Nous devons toujours avoir cette conviction que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ne réfléchissez pas à sa place. Il a des projets sur vous, il a des projets sur moi. Laissez-vous conduire par lui. Ayez confiance en lui. C'est tout ce qu'il vous demande. Il est le Dieu d'Abraham. Il a donné à Abraham, qui n'était pas un combattant, il lui a donné une victoire éclatante sur 4 rois. 4 rois qui semaient la terreur dans la région. Qui avaient défait le roi de Sodome. Ils ont emporté le roi de Sodome, c'est dans Genèse 14 ça. Ils ont emporté le roi de Sodome avec Lot et tous les biens. Ils ont emporté cela avec eux, les 4 rois en question, qui se sont ligués contre le roi de Sodome. Et bien, Abraham a pris 300 de ses serviteurs pour s'attaquer à ces rois-là. Et Dieu lui a donné la victoire. Ce même Dieu peut vous donner la victoire ce soir. Les vents peuvent s'agiter. Le flot de la mer, c'est l'agitation des foules. Le monde peut s'agiter, mais vous, Dieu veut que vous restiez inébranlable dans vos décisions. Vous avez pris votre décision, vous vous êtes engagé à suivre Dieu. le jour de votre baptême. Vous avez pris cet engagement que désormais, je le suivrai, quoi qu'il arrive, sachant que ce n'est pas un homme que vous suivez, sachant que c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant que vous suivez, qui est capable de vous ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Dieu veut que nous le croyons ainsi, que nous le prenions au mot, et enchanté jusqu'à la mort. Eh bien oui, si c'est jusqu'à la mort, nous en croyons aussi qu'il est le Dieu de la résurrection. Celui qui ressuscitera, c'est celui qui s'est endormi avec la foi qui ressuscitera. Avec la foi de la résurrection. S'il dit peut-être que, là c'est autre chose. Il ressuscitera pour le jugement. Parce que là on n'a pas besoin de foi. Abraham avait besoin d'un agneau pour sacrifier. N'ayant pas, il devait sacrifier son fils. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Et le fils va lui poser la question. Abraham était convaincu que même quand bien même il égorgeait son fils, que Dieu était capable de le ressusciter. C'est ainsi qu'il est parti, obéissant. Ce Dieu-là, qui lui avait promis un fils, alors que son corps était déjà usé, le corps de Sarah était usé, eh bien, il savait que c'était El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et au moment d'aller l'immoler, au moment d'aller le sacrifier, dans Genèse 22, Abraham va dire ceci à ses serviteurs. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Il était certain que lui et son fils reviendraient. Il était certain de ça. Il dit, « Nous reviendrons auprès de vous. » Or, Dieu lui a dit, au verset premier, « Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes. » Et il allait le faire. Mais quant à revenir chez lui, il dit à ses serviteurs, « Ne vous inquiétez pas, je vais le sacrifier, mais mon fils et moi, nous reviendrons. Nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « T'en fais pas, mon fils. » Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Si vous êtes toujours conscient que le Dieu que vous adorez ce soir est toujours Jéhovah Jireh, vous êtes béni. Donc, un manque chez vous ne peut pas vous inquiéter. Si vous êtes malade, que vous êtes conscient qu'il est Jéhovah Rapha, vous êtes béni. Mais regardez à lui. Ne regardez pas aux symptômes. Si vous regardez aux symptômes, vous serez toujours malade. Regardez à lui. Le problème, c'est que les symptômes aiment bien nous rappeler qu'ils sont là. La douleur, la souffrance, toutes ces choses, c'est vrai. Mais quand bien même j'ai mal, je suis certain d'une chose, il a porté mes douleurs sur la croix. Et il sait ce que je ressens. J'ai confiance en lui. Et aujourd'hui, il est toujours Dieu. Il dit qu'il ne change pas. Malachie 3. Un homme qui suit Dieu résolument, c'est un homme avec lequel Dieu va travailler. Vous savez, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a moyen de travailler avec Dieu. Paul, il allait à Rome en tant que prisonnier, mais il était certain d'une chose, c'était Dieu qui exaucait sa prière. Sa prière d'aller à Rome. Dans Malachie 3, verset 6, il dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il est le même. « Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Jacques confirme. On retourne dans Jacques 1er. Que Dieu ne change pas. Et nous connaissons tous ce verset, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ étant le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jésus du Nouveau, nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tel il était hier, tel il est aujourd'hui. Il était l'homme de compassion hier, il est toujours l'homme de compassion aujourd'hui. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 16, l'apôtre dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Amen. C'est le même Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu vous baptise dans le corps de Christ, vous devez être ancré en lui, en Christ. Rien ne peut vous séparer de lui. L'apôtre dit, ni la famine, ni la persécution. Rien de tout ça, c'est dans Romains 8, n'est-ce pas? Ne peut vous séparer de lui, de l'amour de Dieu, de l'amour que vous avez de lui, n'est-ce pas? Vous l'aimerez toujours. Qui, verset 35, Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne peut vous séparer de lui. Vous l'aimez toujours. Nous avons vu dimanche un des signes annonciateurs de l'avènement du Seigneur. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 24, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que dans les temps précédant la venue du Seigneur, ce sont des temps difficiles, des temps extrêmement difficiles où nous serons secoués, où nous serons cerné de tous côtés par des problèmes, par des attaques, par des séductions, ces guerres et ces bruits de guerre, toutes ces choses qu'il y a là, ben, beaucoup vont se poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que j'ai vraiment cru en lui? Et en plus, Pierre nous dit, il y en a qui vont poser, les moqueurs viendront, qui diront, mais depuis le temps où vous le dites, depuis le temps où les moqueurs viendront, où est la promesse de son avènement? Mais nous savons une chose, nous l'aimons toujours. Pourquoi? Parce que s'il attend, il ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous viennent à la repentance. Nous restons bien fixés là-dessus. Nous sommes ancrés en Christ. Et celui qui est ancré en Christ, il ne bouge pas. Vous savez, Christ, il a monté, il a gravi cette colline vers Golgotha. Des deux côtés, on criait, on l'injuriait, on lui crachait dessus. Il a porté une croix, mais il n'a pas bougé d'un iota. Et si vous êtes ancré en lui, vous serez pareil. Vous passerez au milieu des difficultés, au milieu des moqueries, vous ne bougerez pas d'un iota, du moins votre foi. Inébranlable, ceux qui se confient en l'Éternel, dit le psaume, dit, sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Vous êtes inébranlable parce que vous êtes en Christ. Les problèmes ne vous agitent pas. Les combats ne vous agitent pas. Vous êtes serein. Vous êtes calme. Vous savez où vous allez. Vous savez ce qui vous attend. Si Poutine dit qu'il dirige Satan 2 sur la Belgique, ça ne vous effraie pas. Il vous dit que ça va raser la Belgique en une fraction de seconde. Si ça rase la Belgique, ce n'est pas grave. J'irai à sa rencontre. Vous ne bougez pas. Je sais en qui j'ai cru. Et vous pouvez me l'échanger comme vous voulez. Vous savez, Moïse, il avait cette conviction en lui. Il pouvait échanger cela contre une place en Égypte en tant que dirigeant, mais il a préféré l'opprobre de Christ. Parce qu'il était résolu. Il était certain. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. N'est-ce pas? Colossiens chapitre 1er. Verset 20, juste pour le contexte. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Celui qui est en paix dans ces temps difficiles, il est tout simplement béni. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Rien ne vous ébranle. Vos difficultés ne vous ébranlent pas.
Le fait que vous soyez fauché ne vous ébranle pas. Le fait que les problèmes s'accumulent ne vous ébranle pas. Dans votre foi, dans la foi, vous continuez toujours à proclamer qu'il est Dieu, à le considérer qu'il est Dieu, à lui apporter votre adoration. Que Satan n'aille pas dire, c'est parce que tu lui rends la vie facile qu'il t'adore. Non, vous l'adorez même dans les difficultés. Vous savez en qui vous avez cru. Dans la douleur, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous avez une totale confiance en sa parole. Vous savez, vous pouvez m'apporter toutes les paroles que vous voudrez, mais ma Bible, je ne bougerai pas. De ce point de vue-là, je reste têtu. Sur la Bible, je ne bougerai pas. Ne venez pas me dire que c'est pour un autre temps. Ce qui est pour un autre temps, c'est la théorie du Big Bang. Ça, c'est pour un autre temps. Je n'ai pas lu l'article, mais j'ai vu le titre. Maintenant, ils veulent abandonner cette théorie du Big Bang pour une autre. La Bible, elle n'abandonne pas la théorie « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça demeure. Et je suis convaincu que ça s'est passé comme ça. Et donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On peut avoir des différences avec d'autres assemblées ou avec d'autres groupes qui se disent chrétiens. Il peut y avoir des différences. Mais les différences ne doivent pas vous ébranler. Vous devez être certain que vous avez cru en la vérité. Quand je parle de la vérité, je ne parle pas de ce qui vous est dit à la rue de Firlan. Je vous parle de ce que Dieu vous a révélé. Ce qui vous a dit qu'il est. Maintenant, si quelqu'un d'autre croit autre chose, ça c'est son problème. Si quelqu'un vient vous dire « Frère François ne vous dit pas tout », ce n'est pas un problème. Et c'est vrai, Frère François ne peut pas vous dire tout parce qu'il ne connaît pas tout. Mais Dieu est celui qui vous dit tout. Laissez Dieu venir vous dire que Frère François ne vous dit pas tout. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu parle? Alors, laissez Dieu venir vous le dire. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous le dire parce qu'il sait vous sortir toute une série de citations, toute une série de versets. Non, laissez Dieu vous le dire. Et si vous n'êtes pas à la bonne place, Dieu vous le dira. Parce que vous croyez en cette parole. Jésus dit de tout ce que le Père lui a donné, il n'en a perdu aucun. Si je suis un de ceux que Dieu a donné à Jésus-Christ, je suis sûr, je ne suis pas perdu. Si nous sommes là, c'est pour nous exhorter. Nous n'avons pas facile. Là-bas dehors, là où nous étions, tout à l'heure, nous n'avions pas facile. Nous devons travailler à la sueur de notre front. Nous avons des difficultés, même parfois dans nos maisons. Nous avons des difficultés dans nos voisinages. Nous avons des difficultés dans notre travail. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas facile que je n'ai pas cru au Dieu véritable. J'ai déjà raconté cette histoire avec Frère Pépin, on termine. On était avec Frère Pépin en train de cueillir des fruits, travail de vacances, cueillette des pommes. C'est dur, hein? Vous êtes là depuis le matin. Et vous cueillez. J'ai jamais vu autant de pommes de ma vie. Vous cueillez. Quand le panier est rempli, vous allez déverser dans une caisse. Et puis pendant la pause, vous sortez vos tartines, vous mangez, vous avez un peu le temps de parler. Alors frère Pépin, il se met à exhorter les gens. Et il leur dit, je suis fils de roi. Amen. Le type le regarde et dit, fils de roi. Il dit, je suis fils de roi. Mais qu'est-ce que tu fais là en tant que fils de roi? Ne vous laissez pas ébranler par ça. Vous êtes effectivement fils de roi. Il ne faut pas que cela vous ébranle. Mais mon roi, il n'est pas roi de ce monde. Un jour, ce monde s'agenouillera devant lui. Cela ne doit pas vous ébranler dans votre foi. Dieu, tant que vous êtes inébranlable, Dieu peut faire quelque chose avec vous. Et Dieu peut vous donner ce que vous lui demandez. Soyez résolus, soyez stables. Quand Dieu dit, demandez tout ce que vous voudrez, et je vous l'accorderai, si vous le demandez par un soupir du Saint-Esprit, soyez sûr que vous l'avez reçu. Si vous doutez, vous ne recevrez pas. Si vous êtes certain que vous l'avez et vous vous en réjouissez déjà, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. C'est comme cette personne qui a faim, qui n'a pas mangé, n'est-ce pas? Et un bon samaritain, ici en sortant, lui donne 20 euros. Il n'a pas mangé, mais il est content. Il sait qu'il va manger. Ça va? Il a 20 euros en poche. Il sait qu'il va manger. Peut-être qu'en sortant, les magasins sont fermés, peut-être. Mais il peut même dormir sans avoir rien acheté. Mais il a ses 20 euros en poche. Il est content. Sa faim est partie. Ça va? C'est exactement la même chose. Soyez heureux de la promesse que vous avez dans la poche. Peut-être que le magasin en ce moment-là est fermé. Mais soyez certain que vous l'avez. La promesse est pour vous. Cette foi qui obtient les promesses. Que les difficultés ne vous ébranlent pas. Que les difficultés ne vous lassent pas, ne vous fatiguent pas. Soyez combatifs. Josué était vieux quand il a dit, moi et ma maison servirons l'Éternel. Je ne sais pas ce que vous ferez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Prions, Seigneur. Cette conviction être certain que Dieu est plus que capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et si nous manquons de sagesse au moment où nous demandons, puissions-nous la demander à Dieu avec la foi que Dieu nous l'accordera. Ne soyons pas irrésolus. Ne soyons pas agités par le vent de la mer, par ces difficultés, par ces combats, par ces épreuves par lesquelles nous passons, par le vent qui souffle de manière contraire, dans la direction contraire, nous empêchant bien ramer. Mais ayons cette conviction que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, rien n'a arrêté cette parole. Elle ne reviendra jamais à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été prononcée.
et la lumière fut. C'est le même Dieu ce soir. Il n'a pas changé, il est toujours le même. C'est nous qui devons changer. Lui n'a pas changé. Sois béni, ô Père, Père céleste. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé. Ce nom merveilleux que tu nous as laissé, que tu nous as donné, qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira. Toute domination, toute autorité fléchira le genou devant ce nom merveilleux. Il est magnifique ce nom. Jacob a eu mal, mais il voulait cette bénédiction. Et il l'a obtenue. Sa hanche a été déboîtée, c'est vrai, mais il a obtenu sa bénédiction. Nous te bénissons, te remercions. Bénissons ton saint nom. Te remercions de nous avoir réunis ce soir. Nous remettons notre chemin du retour entre les mains. Tu abandonnes tes enfants entre tes mains. Te remettons la journée de demain entre tes mains. Sous ton contrôle encore. Que tu sois avec nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans mon prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Demain, c'est férié. Nous avons action de grâce. Terminera aux environs de midi, midi et demi. Puis, part en Allemagne après. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.